Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Vous suivez la radio Nzamba Gateka Kawe. C'est le moment du journal de ce jeudi 11 janvier 2024. Mais d'abord, les titres. Fermeture ce jeudi des frontières entre le Rwanda et le Burundi. Mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur qui traite le président rwandais de mauvais voisin. Le gouvernement emboîte le pas à la société civile et reconnaît les salaires trop bas qui poussent les médecins à fuir le pays. Dans ce journal, vous suivrez Faustin Dikoumana, président de l'ONG Parsem, qui conseille au gouvernement de bien les payer pour les retenir. La réhabilitation de l'accord d'Arusha est la seule voie pour stabiliser le pays. C'est pour cette raison que les organisations politiques engagées au sein du cadre d'action pour la réhabilitation de cet accord ont adressé une correspondance aux garants de ce document crucial pour qu'ils interviennent dans ce sens. À toutes, à tous. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Les frontières entre le Rwanda et le Burundi sont fermées depuis le matin de ce jeudi. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur. Martin Ninelitse animait une réunion avec les responsables administratifs à Kayanza. Selon lui, le Rwanda est un mauvais voisin. Suivez.
Je vais vous le dire, on s'est rendu compte que nous avons un mauvais voisin pour Kagame, le président du Rwanda. On a rompu nos relations avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Il a des projets obscurs qu'on ne comprend pas. C'est lui qui cache les malfaiteurs qui perturbent la sécurité au Burundi. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure de fermer les frontières avec le Rwanda. Je vous le dis, toutes les frontières, Nemba, Kasenyi, Kanyaru sont fermés. Nous n'avons pas besoin des Rwandais, mais ceux qui sont sur notre sol, nous les avons envoyés.
Et puis, c'est ce jeudi que la journaliste Floriane Ilangavier a comparu à la Cour suprême en cassation. Selon des témoins sur place, c'était une audience qui a duré à peine 10 minutes. La défense a de nouveau démontré que l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État était non fondée et que l'affaire a été émaillée d'irrégularités. Les avocats ont demandé la relaxe et donc la levée de la condamnation de 10 ans de prison et une amende d'un million de francs burundais. L'affaire a été mise en délibéré. Pour rappel, Floriane Ilangavier a été arrêtée le 30 août 2021. Elle est incarcérée à la prison centrale de Bouvanza, où elle a récemment été transférée venant de Muyinga. Un militaire burundais décédé la semaine dernière après s'être vu refuser d'être transféré dans un autre hôpital. Ce militaire avait été blessé lors d'un accident de roulage il y a plus d'une semaine. Un haut gradé de l'armée burundaise aurait interdit au médecin de cet hôpital de soigner son patient tout en indiquant qu'il va être transféré dans une autre structure de soins de santé. Le point avec mon fils Nyonger.
Ce militaire est décédé samedi dernier. C'est le caporal chef Salvatore Sinzinghayo. Il a été blessé lors d'un accident d'une motocyclette survenu mardi dernier dans la capitale politique de Gitega. Des sources de la radio Nzamba Agateka Kawe au sein des militaires proches du défunt indiquent qu'après cet accident, la victime a été directement conduite dans la clinique Espoir de Gitega, connu sous le sobriquet de chef Fourchette. Un de ces militaires explique que le général Ndenza, commandant de la 2e division, a interdit aux médecins de soigner son militaire, arguant qu'il va être transféré dans une autre structure de soins à Bujumbura.
Il a donné mercredi des injonctions aux responsables des soins médicaux au camp militaire et Ndendereza a ordonné aux médecins d'enlever des sérums à son militaire, arguant qu'il va être transféré. Et depuis ce jour, il n'a subi aucun traitement.
Les mêmes sources affirment que le conducteur de la motocyclette avait permis d'assurer les factures de soins de santé de son militaire et précise que le général Ndenzako est le responsable des soins dans la deuxième division, sont responsables du décès parce qu'ils ont interdit la poursuite des soins pour son militaire. La rédaction de la radio Nzambagate Kakawe n'a pas encore trouvé par téléphone ces personnes si haut citées dans ce dossier pour qu'ils donnent les éclaircissements sur les faits.
Merci, bon fils Niongele, pour ces détails. Des assassinats, la haine, la discrimination, l'exil et la mauvaise gouvernance qui se manifestent dans le pays. Il s'agit des facteurs qui ont poussé les organisations politiques engagées au sein du cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi à adresser une correspondance aux garants et amis de l'accord d'Arusha pour solliciter leur contribution pour sa réhabilitation. L'un des signataires, Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale, rappelle que l'accord d'Arusha avait créé des conditions visant à unir et réconcilier les Burundais, d'où son appel à sa réhabilitation. Suivez-le.
Le citoyen burundais aujourd'hui est exposé, il est régulièrement exposé à la mort, à l'exil, à l'assassinat, à la haine. Et tout cela ne contribue pas, ne peut pas contribuer à la réconciliation du peuple burundais, ne peut pas contribuer à la paix, ne peut pas contribuer au développement. Nous voulons créer des conditions qui permettent à l'État burundais, au peuple burundais, de faire du Burundi une nation digne, une nation respectée, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Et en dehors de tout ce qui spécule en disant que nous visons autre chose que cela, nous visons uniquement ça, parce que c'est ça que nous sommes convenus. Et il y en a qui disent que l'accord d'Arusha a terminé son mandat. À cela, je les défie. Il faut qu'ils viennent, qu'ils discutent avec nous. Nous allons leur démontrer que l'accord d'Arusha reste d'actualité et reste la fondation de l'État burundais. Pour preuve, l'accord d'Arusha prévoit des mécanismes pour l'établissement de la vérité avec objectivité, avec impartialité, avec neutralité. Et on a mis en place ensemble, une pseudo-CVR, Commission Vérité et Réconciliation, dirigée aujourd'hui par l'ambassadeur Ndaye Charrier, Pierre Claver, qui est quelqu'un qui peut nous montrer que la vérité a été établie avec objectivité, avec neutralité, impartialité. Parce qu'en établissant cette vérité, c'est pour plus jamais ça, pour que cela ne se reproduise plus, tout ce qui s'est passé. C'est écrit dans le premier protocole de l'accord d'Arusha. Deuxièmement, cet accord d'Arusha recommande à ce que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi pour faire face à tous ces défis que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut nous prouver que la démocratie est installée dans ce pays, que la bonne gouvernance est installée dans ce pays. Il suffit d'écouter les plaintes du chef de l'État burundais en ce qui concerne cette bonne gouvernance. Là, il n'y a personne qui va nous contredire. En fait, la démocratie et la bonne gouvernance reposent sur un bon fonctionnement des partis politiques, de la société civile, des médias et des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous montrer aujourd'hui que les partis politiques fonctionnent, que la société civile fonctionne, que les médias fonctionnent correctement? Il n'y a personne qui peut nous prouver cela qui vient. L'accord d'Arusha recommande également que les corps de défense et de sécurité, entendez par ici l'armée, la police, le service national de renseignement, doivent constituer une priorité de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver que les corps de défense et de sécurité ne sont pas aujourd'hui au service d'une ethnie, ne sont pas aujourd'hui au service d'un parti politique?
Léonce Ngendakumana sera l'invité en fin de ce journal.
Inzamba.
La suite de cette édition. La ministre de la Santé avoue que le départ massif des médecins à l'étranger est lié au mauvais traitement salarial. Domine Manirimbona, qui répondait hier aux questions des députés, a fait savoir qu'au Burundi, un médecin spécialiste touche 650 000 francs burundais contre 1 300 000 francs rwandais au Rwanda, ou encore 3 000 dollars au Kenya. De son côté, Foster Ndikumana, directeur de l'ONG Parsem, estime que ce départ provoque un déficit de la qualité des soins de santé au Burundi. Et pour pallier à ce problème, il suggère que le gouvernement paie correctement ses médecins, mais que cela doit passer par une réaffectation du budget. Foster Ndikumana conseille au gouvernement d'éliminer les dépenses qui n'ont pas de résultats immédiats. Suivez-le.
Pour disponibiliser ces médecins, il faut bien les payer, comme on le voit dans d'autres pays. Alors, il faut tabler, miser sur l'affectation budgétaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment actuellement on se targue de dire que les recettes fiscales augmentent d'année en année, le gouvernement continue à s'endetter, on a une dette abyssale de plus de 6 000 milliards, dont 50% est compensée par la dette intérieure. Comment cette augmentation des recettes de la dette sans améliorer le service de santé de la population? Quelle est l'affectation budgétaire? Quel type d'affectation budgétaire dans ce cas? Alors, parfois, on constate qu'il faut une bonne affectation budgétaire en éliminant toutes les dépenses qui n'ont pas de résultats immédiats. Il y a par exemple les fonctionnements, les subventions, ces subventions de milliards, des milliards, des milliards dans les coopératives, subventions régulières, alors qu'elles devaient en contrepartie produire les missions, les bonnes initiatives, les superstructures des ministères, donc vous savez, les dépenses au niveau central, dans les cabinets des ministres. Actuellement, par exemple, dans le ministère de la Santé, on a plus de 10 directions. Il y a ces exonérations qui sont accordées indûment. J'imagine qu'il faut de la sagacité pour voir vraiment comment améliorer l'affectation budgétaire. Actuellement, le budget du ministère de la Santé compte un budget de plus de 340 milliards, 172 milliards financement interne et 164 milliards dans les projets. Tout le monde sait que les appuis des projets concernent les médicaments, par exemple, certains équipements, l'achat du matériel, là, mais appuyer les services de santé, empêcher les médecins, les infirmiers ou les médecins, les généralistes, les spécialistes, qui relèvent du ressort du gouvernement de le faire efficacement pour disponibiliser ces services.
Toujours en matière de gouvernance, le secteur socio-économique a été mal géré au Burundi au cours de l'année 2023. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Forum pour le renforcement de la société civile et forces. L'organisation dit notamment avoir constaté une mauvaise gouvernance dans les domaines éducatifs, fonciers, économiques, et c'est lié à la gestion du travail. L'organisation demande au gouvernement de rectifier le tir pour le bien de toute la population burundaise. On écoute à ce propos Odette Avianimana, chargée des programmes au sein de FORSC.
Au niveau de l'éducation, FORSC constate que les conditions d'apprentissage ne sont pas vraiment requises, d'autant plus qu'il y a des effectifs très très élevés au niveau des classes, où on peut constater 4-5 élèves sur un même banc pupitre, où la question d'hygiène, les latrines font défaut dans certains établissements, où on peut trouver deux latrines pour tout un établissement, et cela pose des problèmes de santé, et on craint des maladies des mains sales. Au niveau du travail, les organisations syndicales Cosibo et CSB dénoncent un réel blocage, une réelle insouciance de la part du gouvernement face aux préoccupations des travailleurs, mais aussi qu'il y a ce blocage de dialogue social entre les syndicats et le gouvernement. Pour le foncier, nous avons beaucoup plus insisté sur les cas d'expropriation abusive, pouvant être qualifiés d'accaparement des terres par les hauts cadres, où les populations lambda se voient déguerpies de leurs propriétés foncières, se disant que ce sont des expropriations pour cause d'utilité publique, mais qu'en réalité, il y a directement redistribution au profit des cadres du système au pouvoir. Concernant la flambée des prix des produits vivriers, c'est un phénomène général et généralisé, et cela aussi prend naissance dans le fait qu'il y a une pénurie du carburant à travers tout le pays, engendrant également la flambée des prix de transport à travers tout le pays. FORSC recommande que le gouvernement accepte le dialogue social avec les syndicats, que le gouvernement fasse tout pour faire cesser ces pratiques d'accaparement des terres par des cadres au détriment des populations, mais aussi de rompre avec cette culture d'impunité. L'autre recommandation, c'est de mettre en place des stratégies durables de maîtrise des flambées des prix, notamment la détaxation des produits de première nécessité, mais aussi la constitution du stock stratégique carburant.
Pénurie d'eau dans les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura. Les habitants disent qu'ils peuvent passer tout un mois sans qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Et pour répondre à certains besoins, ceux qui ne peuvent payer des taxis vélo à un prix qui varie entre 500 et 1000 francs par bidon d'eau de 25 litres. Il demande à la régie des eaux de résoudre ce problème avant qu'il n'attrape des maladies liées au manque d'hygiène. Pierre Garungo, reportage.
Les habitants des quartiers du nord de la mairie de Bujumbura disent que les conditions de vie deviennent de plus en plus dures. À côté du manque de courant électrique qui s'y observe depuis un certain temps, la carence de l'eau empire la situation. Ils affirment qu'ils peuvent passer tout un mois sans eau dans les robinets. Pour satisfaire à des besoins prioritaires, ils paient les taxis vélo entre 500 et 1000 francs le bidon.
Dans beaucoup de quartiers de la capitale de Bujumbura, le problème de l'addiction d'eau potable existe encore. L'État avait tenté de régler ce problème en faisant l'addiction d'eau par forage, mais il ne l'a pas fait dans tous les quartiers. Il l'a fait dans certains quartiers comme la gare. Par exemple, moi, dans le quartier Tibitoke où j'habite, on avait l'habitude d'avoir l'eau pendant la nuit, entre 2h et 5h du matin. On se réveillait et on pouvait puiser. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Nous venons de passer presque un mois sans une goutte d'eau dans les robinets. Cela constitue un grand problème, car l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas d'eau de vie. Les gens qui ont des toilettes dans leur maison et ceux qui ont des restaurants ont du mal à avoir l'eau suffisante pour la propriété. On dit qu'à quelque chose de malheur est bon, les gens qui font le taxi zéro en profitent. Parce que quand il vous fait parvenir à la maison un bidon de 20 litres, qui lui était entre 500 francs et 1000 francs.
Les conséquences sont nombreuses, dont le manque d'hygiène dans les ménages, les restaurants et les cabarets. Ils craignent des maladies liées à ce manque d'hygiène.
Nous avons peur d'attraper les maladies des mains sales, comme on dit. Nous sommes fatigués vraiment. Nous demandons à l'État de régler une fois pour toutes ce problème qui se trouve au sein de la régie des eaux et d'étendre dans tous les coins de la capitale l'adduction d'eau par forage. Sinon, nous courons des risques énormes.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas pu joindre par téléphone Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, pour qu'il s'exprime là-dessus.
Place à l'invité du journal.
Je vous l'avais dit, nous terminons ce journal par notre invité, Léonce Ndikoumana, ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'entretient avec Alexandre Niungeko, s'explique sur une correspondance dont il est le co-signataire. Correspondance envoyée au garant de l'accord d'Arusha.
Honorable Léonce Ndikoumana, bonjour. Au nom des organisations politiques engagées au sein du cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, vous venez d'adresser une correspondance aux garants et amis de cet accord. Pourriez-vous nous éclairer sur votre intention première dans cette démarche?
Nous avons effectivement écrit aux garants de l'accord d'Arusha avec copie pour information au gouvernement du Burundi et à beaucoup de nos partenaires amis du Burundi pour demander à ce que l'accord d'Arusha soit réhabilité. Les problèmes qui sont dans ce pays, des gens continuent à être persécutés, des gens continuent à être assassinés, y compris même des militaires et des policiers. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un chef policier a été assassiné à Rutana, dans la commune de Giharo. C'est comme si de rien n'était. Il y a des attaques qui commencent à être effectuées sur le pays, c'est le chef de l'État qui nous l'a dit à la fin de l'année. Et l'idée de coup d'État commence à réapparaître aussi, l'idée de coup d'État. On a vu qu'en 2015, il y a ceux qui ont tenté un coup d'État, il a avorté. Mais aujourd'hui, il y en a ceux qui sont en prison. Et le chef de l'État a dénoncé ces gens qui voulaient déstabiliser les institutions en faisant un coup d'État. Alors, l'ensemble de tout cela, à côté des emprisonnements, des arrestations arbitraires, des jugements arbitraires, des emprisonnements arbitraires, il y a des gens qui sont contraints de rester en exil. Il y a beaucoup d'exilés burundais, des hommes politiques, des hommes d'opinion, des jeunes et des femmes qui sont contraints de rester à l'extérieur du pays. Il y a des gens qui croupissent encore en prison. Alors, là, je ne parle pas de questions de pauvreté. Je ne parle pas de questions de chômage. Je ne parle pas de questions liées au système éducatif burundais, à la santé des Burundais. Non? Il y a énormément de problèmes aujourd'hui, de telle sorte que notre pays est toujours classé dernier dans le développement. Il y a énormément de problèmes qui découlent voulait dire rejet de l'esprit de l'accord d'Arusha. L'exclusion. Il y a des Burundis qui sont exclus. Maintenant, dans toutes les institutions du pays, il n'y a que des membres du parti CNDD-FDD uniquement. Et si on laisse cette situation se prolonger, ça veut dire que le Burundi, à un certain moment, sera effacé de la carte internationale. On parlera du Burundi de nom, mais qu'au niveau des faits, le Burundi n'existera presque pas. C'est pour cette raison que nous avons demandé au peuple burundais, d'abord, et aux garants, d'exiger la réhabilitation de cet accord d'Arusha qui nous a permis de mettre fin à une guerre fratricide insensée qui a duré plus de 10 ans, à peu près 15 ans. C'est cet accord d'Arusha qui a permis qu'il y ait des accords de cessez le feu. C'est cet accord qui a permis à sept mouvements politiques armés de revenir dans le pays et aujourd'hui certains sont dans les institutions, ils sont même les gestionnaires de ces institutions. Il y en a qui ont créé des partis politiques, il y en a d'autres qui ont réintégré la vie socio-professionnelle et la guerre s'était arrêtée, ni était cette négation de l'accord d'Arusha par le parti CNDD-FDD. Et à côté de tout cela, il y avait une question qui avait duré longtemps. On disait que le conflit burundais était ethnique entre les Hutus et les Tutsis, mais l'accord d'Arusha a démontré que ce conflit n'avait rien à voir avec les ethnies, que c'était un conflit lié à la mauvaise gestion de l'État burundais, à l'exclusion et au génocide. Au-delà, cet accord nous a permis d'intégrer dans la gouvernance générale de l'État des femmes. Les femmes avaient été longtemps exclues de la gestion du pays. Et ils sont très nombreuses dans ce pays. Les jeunes, hein, les minorités, les différentes minorités. C'est qu'on sait que cet accord avait recréé l'espoir de revivre ensemble dans ce pays. Alors, on voit que nous sommes en train de perdre tous ces avantages par le rejet de l'accord d'Arusha, par la négation de l'accord d'Arusha, par le parti CNDD-FDD. Et cela est inacceptable pour la majorité des Burundais. Et cela est inacceptable également pour la région et même pour la communauté internationale, surtout pour les dépositaires comme les Nations Unies et l'Union africaine qui continuent à exiger du Burundi à se référer à l'accord d'Arusha pour gérer son pays et pour l'intérêt de tous les Burundais et non pas pour l'intérêt d'un seul parti politique ou de seuls membres de son parti politique.
Certains trouvent que votre initiative aurait plutôt des visées personnelles. Qu'est-ce que vous leur répondrez?
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce programme date de très longtemps. Je me souviens que en 2014, lorsque le président Nkurunziza voulait réviser la constitution pour un troisième mandat illégal et anticonstitutionnel, je me souviens que nous avons rédigé une lettre au secrétaire général des Nations Unies avec copie pour information à beaucoup de partenaires burundais, à ses amis et aussi à ses garants de l'accord d'Arusha également, au gouvernement du Burundi. La lettre a été écrite par 12 partis politiques et ils m'ont mandaté pour signer cette lettre. Je connais qu'à la suite de cette lettre, le gouvernement a voulu me persécuter, mais la suite nous a donné raison. Est-ce que quelqu'un ignore que suite à ce troisième mandat illégal, anticonstitutionnel et injuste, est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas les conséquences de cet acte? Il y a eu des manifestations, beaucoup de gens ont été tués, ont été emprisonnés, d'autres contraints de rester à l'exil, en dehors de ceux qui croupissent encore en prison. Il y a eu même une tentative de coup d'État, c'était le 13 mai 2015, je m'en souviens. À la tête de ce coup d'État, il y avait le général Niyombare, coup de foi. Le chef de l'État a failli rester en exil, il était à Dar es Salaam en réunion. Vous comprenez que les conséquences ont été désastreuses. Je ne parle pas des conséquences qui ont subi jusqu'aujourd'hui, c'était désastreuses. Alors, c'est que nous avions dit que la ou le rejet de cet accord d'Arusha va entraîner d'énormes difficultés pour le Burundi, ça s'est produit. Et deuxièmement, après cette lettre que nous avons signée en 2014, moi j'ai été dans des conférences à l'Université libre de Bruxelles, dans un colloque sur le Burundi, parlant de l'accord d'Arusha. Et à l'issue de cette conférence, à l'issue de ce colloque, nous avons sorti un document contenant les conclusions de ces conférences et colloques. Et c'est moi qui ai été mandaté pour signer ce document. Après, nous nous sommes rendus à Zanzibar. Tous les partis politiques regroupés au forum de dialogue des partis politiques burundais étaient présents, y compris le parti au pouvoir. La conclusion a été que l'accord d'Arusha doit rester le fondement du gouvernement du Burundi pour bien gérer son pays. Et on a recommandé au forum de dialogue des partis politiques de commencer à organiser des débats contradictoires, démocratiques au sein de ce forum pour que cet accord d'Arusha soit réhabilité. Le même centre tanzanien pour la démocratie est venu à Bujumbura. Une autre réunion a eu lieu. Le ministère de l'Intérieur avait exigé à ce qu'il soit présent ou représenté dans cette réunion. La réunion a eu lieu. La conclusion a été la même qu'à Zanzibar. L'acte que nous venons de poser n'est pas un acte récent. C'est pas un acte qui date d'aujourd'hui, c'est un acte qui date de longtemps et ce projet sera poursuivi jusqu'à la transformation complète de la société burundaise.
Dans votre correspondance, vous accusez le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'avoir nié et rejeté cet accord d'Arusha. Dans cette optique, pensez-vous que les garants et amis de l'accord d'Arusha ont la capacité d'influencer et de convaincre le parti CNDD-FDD de revenir à l'accord?
Le pouvoir CNDD-FDD s'il est conscient, il se rend compte que le rejet, la négation de l'accord d'Arusha a été à l'origine de la recréation des causes du conflit burundais depuis que le CNDD-FDD a rejeté l'accord d'Arusha. On voit que nous sommes retournés dans des problèmes de coup d'État, dans des problèmes des attaques sur le pays, dans des problèmes d'assassinats, dans des problèmes d'exclusion, dans des problèmes d'emprisonnement arbitraire et abusif. Donc, dans une économie ruinée, nous avons une économie ruinée de telle sorte que le Burundi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde et le plus corrompu du monde. Donc, si le gouvernement est conscient de tout cela, il va certainement nous écouter, nous appuyer et procéder au changement de cette situation.
Honorable Léonce Ngendakoumana, nous vous remercions pour cet entretien que vous avez accordé à la radio Inzamba, à Gatekakawe.
Merci aussi.
Merci Alexandre Niungeko pour cet entretien. Et c'est par ici qu'est prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.